bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Ah,
c'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudali.
Bonjour à tous.
Guillermo Guiz.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel, bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau et notre invité est Pierre-François Martin Lavalle.
Bravo, bravo.
Monsieur, formidable, monsieur Pef. Formidable, monsieur Pef. Vous allez passer un bon moment en famille. En plus, ça tombe bien. Je pense qu'il y a des vacances de Pâques qui vont arriver dans pas longtemps.
Comme par hasard.
Ouais, comme par hasard. Mais sorti donc le 4 avril prochain, Gaston Lagaffe, 5e long métrage signé par Pef, avec la liberté quand même d'avoir fait votre Gaston Lagaffe. C'est pas l'adaptation d'une BD particulière.
Ah bah, je me suis senti libre, mais à la fois très fidèle aussi à la BD que j'adore. Ouais.
Complètement. Mais il y a un petit texte à la fin au générique. Alors, le générique défilé un peu trop vite, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais qui dit que justement, c'est un Gaston Lagaffe remanié contemporain, avec ses smartphones, avec ses iPads.
Oui, mais en même temps, la BD était contemporaine à l'époque aussi. Donc je me suis dit que Franquin, s'il avait continué d'écrire de la même manière qu'il a évolué dans les années 60, 70, puis 80, s'il avait continué, bah, il l'aurait fait évidemment.
Surtout, en plus, il y a quelques prémonitions. Quoi. Gaston Lagaffe est un inventeur. Il cherche des idées. Enfin, je ne sais pas s'il les cherche, en tout cas. Mais il improvise beaucoup de choses. C'est drôle parce que c'est du Gaston Lagaffe. C'est-à-dire le film en lui-même. Puis en plus, on sait à quel point vous êtes gaffeur dans la vie. Donc, ça vous va bien. Sauf que ce n'est pas vous qui jouez Gaston Lagaffe. Oui. Il fallait trouver le comédien.
Et oui, je suis tellement vieux.
Qui se tienne aussi tordu.
Ouais. J'aurais adoré plus jeune jouer ce personnage. Mais Théo Fernandez est beaucoup plus troublant que moi. Il a effectivement la morphologie du Gaston inventé par Franquin. Et puis, je le dis, j'en profite qu'il ne soit pas là, je le dis dans son dos, mais il a quand même quelques sérieux défauts en commun avec Gaston. Quoi.
Ah. Il fait la sieste.
Si c'était que ça. Oui, il dort beaucoup. Alors lui, il me dit, mais non, mais je dors comme tout le monde, 12 heures par nuit. Mais je lui dis, mais non. Il n'y a que mon bébé de 1 mois qui dort 12 heures par nuit. C'est fascinant. Il est fascinant. Moi, j'ai fait 80 dates de tournée avec lui, donc j'ai appris encore plus à être proche de lui que sur le tournage. Et il me fascine. Il s'endort, par exemple, quand on fait un dîner avec les exploitants de salles de cinéma, il dort dans son assiette dès l'entrée. Et je lui dis, mais enfin, Théo, c'est les directeurs de salle qui.
Mais enfin.
Et il me dit, oui, mais je m'ennuie. Il le dit devant eux. Il est comme Gaston. avec les grandes personnes, il s'ennuie. Il n'a pas
sans
de filtre. Il le dit.
Et donc les financiers disent, c'est génial, il est vraiment dans le personnage.
dans le casting, il y a aux côtés de vous et de Théo Fernandez, Alison Wheeler, notre camarade de jeu ici.
Ah, vous la connaissez?
Arnaud Ducré, Jérôme Commandeur. Il y a Charlotte Gabris aussi qui est à l'accueil, au standard extrêmement drôle. Franck Bruno, Sébastien Chassagne, Christophe Canard, Makassi Dibé. On va quand même raconter le résumé un tout petit peu du film. Il y a une société qui s'appelle
Au Petit Coin.
Ouais. J'ai failli dire au Bon Coin.
Ah non, c'est... On n'a pas le droit.
Okay. Au petit coin. Cette boîte sur Internet, son idée est de revendre les invendus ou les invendables. Ouais. Tout ce qui présente un défaut de fabrication.
Voilà, les objets inutiles, elle les rend utiles.
Comme un lot de je ne sais combien d'escarpins, mais uniquement le pied droit.
Voilà, ou un rouleau à pâtisserie carré, ou des bouteilles qui n'ont pas de goulot. Enfin bon,
des balles de tennis ovales.
Voilà.
On pourrait trouver des chroniqueurs de France Inter.
Des pantalons de ski, qui mesurent 2 mètres, oui, qui sont trompés.
Et qui deviennent des sacs de couchage pour deux. Donc ça c'est le point de départ. Et au milieu de ça, vous êtes Prunel, vous n'êtes pas le patron de la boîte, mais vous en êtes son responsable.
Je suis le directeur, voilà le responsable.
En l'absence du PDG.
Comme dans la BD qu'on ne voit jamais.
Qui est joué par Stéphane De Groot.
C'est rare qu'on en parle, mais oui, qui prête sa voix.
Incroyable.
Mais j'ai voulu être fidèle à la BD, c'est-à-dire que le patron du puits dans la BD, on le voit maximum son épaule, mais on le voit jamais. Il est derrière une porte.
Comme les méchants.
Voilà.
Son fils, lui, est présent. On ne sait pas qui est son fils, mais le fils est quelque part dans la boîte.
Ouais.
Évidemment, tous les regards se tournent vers Gaston Lagaffe en disant, est-ce que ce stagiaire est le fils du patron et donc il faut le traiter le plus gentiment possible malgré toutes les bêtises qu'il va commettre.
Il y a un gros quiproquo. Bah en fait, j'ai démarré l'écriture par des questions. Je me disais, mais c'est pas possible que dans une entreprise, on laisse un gars dormir toute la journée et dès lors qu'il se réveille, il va fabriquer une invention très dangereuse pour ses collègues de boulot. Je me suis dit, mais c'est pas crédible, on va le virer. Mm-hmm. Donc justement, je me suis dit, pourquoi il reste ? J'ai trouvé cette solution que j'invite à découvrir.
Et vous êtes mis dans l'obligation d'avoir un gag à chaque plan. Il fallait qu'il se passe un truc.
Mais c'est une des raisons pour laquelle j'avais très envie aussi de faire Gaston Lagaffe. Parce que je parle toujours du génie de Franquin, mais on parle de son coup de crayon, enfin de sa manière de dessiner, mais c'est un très grand gagman. Et moi, étant un petit gagman, j'étais gagman pour des metteurs en scène, j'étais gagman dans l'ombre, en cachette, et puis pour mes films. Et les Robins des Bois. Et là, je me disais, mais grâce à Franquin, je vais faire enfin mon film le plus gaguesque. Et comme Franquin propose des gags toutes les pages, il était hors de question que je m'en prive. Et d'ailleurs, je les ai piochés dans la BD. Hein.
Ouais, alors il fallait garder les fondamentaux, comme la mouette. Elle était obligatoirement
oui, alors
là.
Ça, c'est obligé. Bah, on traite.
Il y a des dresseurs de mouettes au cinéma.
Alors, j'ai fait un casting mouette.
Parce que, voilà. Quel beau métier.
Non, mais c'est vrai parce que au début, quand j'étais en préparation, j'étais très ambitieux. Donc, je disais, je veux tout faire en vrai, je veux faire tous les gags en vrai, je veux le chat, la mouette. Et là, on m'a un peu calmé. On a fait un casting mouette et aucune mouette n'a accepté de jouer dans le film parce qu'elles avaient lu le scénario, elles ont vu qu'elles se prenaient des murs dans la gueule. Et pour ce qui est de chier partout, elles étaient d'accord, mais pour les cascades, non. Donc, du coup, je vous avoue en secret, mais vous n'enregistrez pas que.
Non, ça peut. Ça passe
voilà.
La
mouette
pas
fait
la radio.
Partie des rares effets en synthèse, enfin en virtuel. Mais
le chat aussi un peu.
Ah, le chat, on l'a libéré de la SPA, figurez-vous, grâce au film. Il était en prison et maintenant il vit dans un parc à Fontainebleau. Super. Avec plein d'animaux. Non, il y a du vrai chat dans le film. Et puis quand c'est trop dangereux, ouais. Par respect pour Brigitte Bardot, on a pris un faux chat.
Est-ce que les fesses d'Arnaud Ducret sont les vraies ou vous avez fait aussi un casting fesses?
Alors,
c'est les vrais.
Alors, les fesses d'Arnaud Ducret sont vraies. Est-ce qu'elles sont retouchées? Ça, je vous laisse. Ah non, je suis trop à l'aise avec Nagui, donc du coup, je dis des trucs qu'on n'a pas le droit de dire.
Alors que son nez est vrai, lui, par contre, dans le film.
Non, le pauvre, si vous saviez, mais c'est fou.
Pourquoi?
Arnaud Ducret, qui est une force de la nature, il avait tellement honte d'avoir un long tarin, comme le nom de son personnage l'indique, on lui avait mis un faux nez tous les matins pendant 2 heures, à partir de 6 heures du matin.
Il y a des gens qui vivent très bien qu'un gros nez, je vois pas le problème, monsieur.
Oh non, c'est pas de ce niveau-là, Nagui. Vous, il est très joli, il est bien sculpté. Là, c'était vraiment un long tarin. Et Arnaud allait dans la rue et il disait aux passants, c'est pas mon vrai nez, c'est pas mon vrai nez. Non, mais il était hyper touchant, le pauvre. Il avait honte.
Arnaud, je crois que vous avez également sorti de prison pour les besoins du film.
Et qui vit dans un parc.
Mais c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à le reconnaître.
Oui.
Au départ, je me suis dit, tiens, mais je le connais pas.
Et quand t'as vu ses fesses, t'as dit, c'est lui.
Et après, quand j'ai vu ses fesses, je me suis dit, c'est bien Arnaud Ducret. Voilà.
C'est Nono.
Et Isabelle Nanty, il faut le dire aussi, elle est présente.
Ah pétard, mais vous avez bien bossé, Nagui. Vous êtes le seul. En 80 dates de tournée, vous êtes le seul à me sortir tous ces petits détails.
Elle est là aussi.
Isabelle Nanty m'a fait l'amitié, comme Stéphane, parce que je peux pas faire un film sans Nanty. J'en étais vert, et donc elle me fait la voix du petit coin. Donc on entend sa voix. C'était un hommage aussi au film de Tati et de Pierre Richard. Vous vous souvenez le film du Distrait où on entendait on demande Monsieur Malaquais au bureau de Monsieur Guiton. Non. On demande Monsieur Maton. Bon voilà, donc Nanty est venu me faire ça.
Non, c'est on est vraiment dans l'univers Gaston Lagaffe.
C'est ça, quand on a eu la chance de lire les BD enfant, c'est vrai que on a une attente et on se dit déjà comment réussir ce défi, c'est-à-dire de transposer cette bande dessinée au cinéma. Et vraiment, on est complètement plongé dans l'univers.
C'est-à-dire on n'est pas déçu.
Non, on n'est pas déçu.
C'est réussi. Ouais.
Que ce soit les décors,
on n'est pas trahi Gaston Lagaffe.
L'interprétation parfois un peu outrancière de tous les comédiens, Jérôme Commandeur. Voilà les scènes à chaque fois que Jérôme Commandeur
un
arrive,
grand
il est assez exceptionnel quand
même. Il s'est régalé.
Ah oui, parce qu'en plus il est chaque fois différent, soit par les fringues, les cheveux, la posture.
Mais sur ce film je me suis souvenu d'une phrase de Claude Berry qui disait comment vous dirigez les comédiens, il répondait je ne les dirige pas, je les choisis. Et je me disais oh là là, il y comprend rien, j'étais prétentieux, je me disais mais il comprend rien, il faut les diriger. Et en fait non, je les ai bien choisis. Et après sur le plateau, je leur ai juste dit, mais amusez-vous quoi. Et du coup, moi, je me suis régalé. Pour la première fois, j'avais des fous rires. J'arrivais pas à jouer avec Jérôme parce qu'il avait une partenaire qui s'appelle Sylvie Laguna.
Ah oui, qui est génial.
C'est pas une voiture, c'est vraiment une comédienne. Et non, mais je vous jure, on ne peut pas jouer avec elle. On ne fait que rire.
Ouais, mais ça m'étonne pas. Là. Ouais. D'ailleurs, on l'a vu dans plein de choses.
C'est Mademoiselle qui glousse.
Ouais.
Mademoiselle qui glousse, exactement. Dans comme dans la BD, hein, qui ne fait que glousser et qui, voilà. Qui...
Et puis, il y a chanteur des Naïve Newbiters aussi.
Oh là là,
et
très bon comédien.
Il faut l'inviter à Taratata.
T'inquiète pas, ils ont déjà fait.
Ah, ils ont déjà fait.
T'inquiète pas.
Ah oui, excellent. Bah, lui, il est hors du commun, lui. Tout le monde se demandait s'il jouait. Je dis non, non, il est comme ça dans la vie.
Il parle un peu comme un Simpson.
Oui. Il a un peu la voix d'un Simpson.
C'est ça,
Esteban.
La voix d'Homer.
Oui.
Esteban, très fort. Non, mais vraiment, les gars qui sont là, c'est un film tout public. Vous pouvez y aller tranquillement avec vos enfants.
Oui, d'ailleurs, alors je tiens à le dire parce que c'est vérifié, je l'ai vu en tournée.
À part les fesses d'Arnaud Ducré, mais sinon tous les enfants peuvent y aller.
Je tiens à dire que c'est de 4 à 104 ans et pas de 7 à 77 parce qu'il y a vraiment les vieux fans de la BD qui s'y retrouvent, mais il y a des petits de 4 ans qui sont morts de rire aussi. Donc, voilà.
Alors c'est exactement ce que j'allais dire, on peut voir le film sans jamais avoir lu aucun Gaston Lagaffe.
Oui. Bon, c'est regrettable parce qu'en tant que fan, mais c'est vrai que, mais je pense qu'ils vont l'acheter après la BD, les enfants. D'ailleurs, il y a des enfants qui ont dit à Théo Fernandez en sortant du film après la projection, tu sais Gaston que chez moi j'ai toutes tes BD, parce que les enfants pensent que Théo sort de la BD en fait.
Bon, en même temps, s'il s'endort au resto, oui, il y a un moment.
Avec le fameux gaffophone, ça c'est dans la BD aussi.
Ah,
vous
oui.
avez tenu à respecter l'univers.
Bah oui, non, mais j'aurais été un gros con. Si on adapte Gaston et qu'on met pas le gaffophone, on a tout faux, quoi. C'est incontournable. D'ailleurs, les fans attendent le son du gaffophone parce que tout le monde fantasme depuis 50 ans sur ce son. Et d'ailleurs,
comment
tout le monde s'est disputé dans mon équipe. Bah, en fait, c'était terrible parce que j'ai engagé des fans aussi. Donc, le monteur son revendiquait d'être l'inventeur du son du gaffophone. Le compositeur disait, mais non, mais moi, je le trouve, je vais vous le proposer. Tout le monde voulait le proposer. Et du coup, bon, j'ai fait mon Jacques Martin, j'ai métissé les sons de chacun et ça donne un truc foudroyant. Insupportable. D'ailleurs, vous quitterez la salle, à mon avis.
Non, le son est insupportable. Mais
et
puis, Alison Wheeler.
Oui.
Notre Alison Wheeler.
Le meilleur pour la fin.
Que vous nous avez volé.
Ah là là, ouais, non, mais ça faisait longtemps que je voulais vous la voler. Hein. Non, c'est pas parce qu'elle est à vous, mais je suis vraiment fan de ce qu'elle fait.
Elle est à elle.
Pour moi, c'est une grande comédienne. Et je suis sûr que dans pas longtemps, on la verra dans des drames. Elle peut tout jouer. Et puis, alors, elle a un truc très énervant. C'est que c'est la plus.
Elle le prouve chaque fois qu'elle vient ici.
Ce qui est très énervant, c'est que c'est la plus photogénique de toute la distrib. C'est-à-dire qu'elle a vraiment. Elle a une lumière.
Sympa pour Charlotte Gabrys.
Non, mais elle est plus photogénique.
Il y a deux
beautés. Non, mais ça veut pas dire
qu'elle est
plus belle. Mais c'est un truc inexplicable. Sa peau.
Elle prend la lumière. Elle a un truc de peau grasse qui est.
Il n'y a pas besoin de filtre sur Instagram, c'est génial.
Elle joue Mademoiselle Jeanne qui tombe amoureuse de Gaston Lagaffe. Et évidemment, Gaston Lagaffe ne se rend compte de rien.
D'ailleurs, je suis sûr qu'elle n'osera jamais vous le raconter. Mais
elle se prend des vents.
Quand je l'ai rencontrée en casting, elle est arrivée. J'ai oublié de prévenir Théo Fernandez qu'elle arrivait. Donc lui, gentiment, il donnait la réplique à tous les acteurs qui passaient. Et quand elle est arrivée, elle s'est assise à côté de lui. Il ne parlait plus. Il était vert, il était rouge, il transpirait. Mais en fait, j'ai dit, mais il y a un problème, il est amoureux. En fait, il était fan d'Alison parce qu'il regarde beaucoup Internet. Et donc, il y a une belle histoire d'amitié. Hein,
ah mais, oui, platonique.
Mais une belle histoire.
Bah, comme tout ce qui se passe avec Alison.
Voilà.
Ça s'appelle Gaston Lagaffe.
Excellent
van. C'est le 4. C'est le 4
c'est méchant,
avril.
Non,
c'est gratuit, c'est méchant.
Alison, je suis là.
On l'embrasse.
Ouais.
4 avril, donc au cinéma. Ce qui n'est pas évident parce que les transpositions, moi je me souviens, la première fois que j'avais vu Astérix, je ne parle pas de ceux de Chabat par exemple, mais j'avais été extraordinairement déçu, ou même Tintin. Parce qu'on se dit, ce n'est pas la voix que j'avais imaginée en lisant la BD. C'est pas le même rythme, les cascades sont pas vraiment Capitaine Haddock, il est pas crédible quand il s'énerve. Enfin voilà, on est toujours un peu déçu par l'univers que l'on se crée soi-même en lisant la bande dessinée et quand on va au cinéma. Là, vous êtes allé plus loin avec des effets spéciaux qui vous permettent de respecter cet univers-là avec des gars qui sont quand même les vôtres. Je sais pas s'ils sont
tous. On va dire 90% de Monsieur Franquin, hein. Non, vraiment, sans
vraiment. Modestie.
Ah oui, d'ailleurs, ça sera amusant pour les gens de... Il y en a même dans la BD numéro 1, comme quoi c'est pas... il a pas forcément progressé, je veux dire les plus vieux gags ne sont pas forcément désuets, puisqu'il y en a dans la BD numéro 1.
L'airbag qui est fait avec de l'hélium.
Ah bah ça c'est un très vieux celui-là.
Et Et vous, qui avez ensuite la voix de canard en redescendant, je me suis dit que ça, c'était vous.
Oui, bah, il y a un peu de moi aussi, parce que bah, je me suis régalé, et puis moi, c'est plus fort que moi. Mais,
L'airbag, oui, mais pas la voix.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut bien que je mette un petit peu. Bah, c'est ça qui m'éclate aussi. Mais croyez-moi, souvent, quand j'inventais des gags, je me disais, je vais rajouter celui-là de moi. Et en redévorant la BD, bah, il existait déjà, parce que Franquin a inventé des milliers de gags.
Et comment vous avez géré autant d'effets spéciaux? Pour un réalisateur, c'est compliqué.
Non.
De tourner, c'est... je sais pas, avec des avec des fonds verts, avec des câbles qui vont être effacés après au montage.
Bah, vous savez, le cinéma.
Là, on est plus dans la technique.
Bah, ce qui est génial au cinéma, c'est que moi, je dis ce que j'ai dans la tête et je dis ce pourquoi je veux me battre. Mais il y a heureusement des gens bien plus compétents autour de moi qu'on appelle, par exemple, les gens des SFX et les gens des VFX. Donc les SFX,
les effets spéciaux.
Voilà, les effets spéciaux en studio qui étaient faits par les Versaillais, une équipe fabuleuse dirigée par Yves de Mongeau, ce sont des gens qui font des James Bond, enfin voilà, mais sauf que Gaston, il voulait à tout prix le faire parce qu'ils étaient fans de la BD. Et puis il y a les VFX, donc virtuels, qui étaient faits par MacGuff, des Français, comme le nom l'indique. Et donc on se disputait pas, on se disait bon bah Pef, il aimerait le faire en vrai, mais est-ce que ça serait pas plus drôle en virtuel? Donc on réfléchissait intelligemment si ça allait pas être plus réaliste en virtuel. Ouais. Curieusement, ouais. On réfléchissait au cas par cas.
Bah, voilà. La mouette, elle est formidable.
Elle est formidable. Enfin, on n'aimerait pas l'avoir chez nous. Hein.
Il vaut mieux pas. C'est donc le
4
avril.
Oui, la vache, oui.
Sur le toit.
Bah, la vache, vous savez que ça a été le plus grand drame du tournage.
Pourquoi?
Oh, mais je devrais pas raconter non plus. Bah, en fait,
C'est une vache ou un bœuf?
Ah non, c'est une vache, elle faisait 35 litres par jour.
C'était la vanne du bœuf sur le toit, c'est pas okay. Personne. Ok, on l'oublie.
Vache, quand elle est arrivée sur le plateau, telle une star, hein, c'était vraiment impressionnant. Tout le monde devait la fermer. Corinne arrive. Elle s'appelait Marguerite, mais je l'ai appelée Corinne, ça me faisait rire.
On embrasse toutes les Corinne qui nous écoutent.
Voilà. Les pauvres.
Et quand elle est arrivée avec ses 2 tonnes là sur le plateau, dans le bureau de... on a perdu Théo. On a perdu Théo, mais on l'a perdu au sens propre et figuré, c'est-à-dire qu'il a disparu. Il a disparu et là, je me suis dit, le tournage va s'arrêter, on ne savait plus où il était. Et c'était pas drôle.
Il a eu peur
il a eu très très peur.
Ah d'accord.
Et donc c'est Alison d'ailleurs qui me l'a récupéré. Hein. Elle m'a sauvé parce que moi j'avais beau lui dire, mais attends Théo, Gaston aime les animaux plus que les êtres humains, donc tu dois aimer les animaux plus. Que... Ah mais il était comme une feuille qui
tremblait.
Ah oui oui. Et d'ailleurs c'est quelqu'un très courageux.
Elle n'était pas agressive.
Bah, vous savez, c'est pas parce qu'elle fait du lait qu'elle est pas dangereuse. Une vache, c'est quand même, je veux dire, quand elle arrive avec ses cornes.
C'est la phrase du jour.
Oui, comme ma femme, par exemple.
Oh
bon, bah, ça y est, on a perdu tout le monde. Il va y avoir des mauvais buzz.
L'émission commence.
Non, mais je rendais à mon épouse qui en est à la 32e semaine. C'est pour ça, voilà.
Très bien, très bien. Que vous avez traité de vache. Allons-y.
Et donc, Théo a pris sur lui. De toute façon, il n'avait pas lu le scénario. Hein, donc, il a découvert chaque jour.
Mais il a quel âge ?
Théo, il a 19 ans. Mais si vous voulez, il avait trop la flemme de lire le scénario. Donc, lui, il voulait juste jouer avec moi. Il voulait s'amuser avec tous ses gags.
Non, il a le premier rôle d'un film, il ne lit pas le scénario.
Ah non, mais il est hors du commun. Mais
il a pris son texte.
Oui, alors justement, la veille au soir, il découvrait ce qu'il avait à faire le lendemain. Du coup, quand il arrivait, il me disait « Ah mais moi, je mets pas le harnais, je m'envole pas. » Hein. Je lui dis « Pourquoi ?»« Mais parce que j'ai le vertige. » Je lui dis « Mais c'était écrit dans le scénario, mais je l'ai pas lu. » « Ah bon, bah c'était tout le temps comme ça. »« Ah non, mais moi, je vais pas dans l'eau, j'aime pas l'eau. » Je lui dis « Mais quand tu vas à la piscine, mais je vais jamais à la piscine. »« Mais quand tu te laves, je me lave pas. » Non, mais il se lave avec un gant. Non mais Théo,
vous
tous
pas
les jours,
à le contraindre à dire à un moment, tu prends 2 heures de temps et tu lis le scénario.
Jeunesse, vous savez, maintenant ils veulent plus de papier, ils ont un iPhone. Alors ils découvraient sur son iPhone, Samsung.
Non.
Motorola.
Un des deux qui marche.
Bon.
Autant dire que il s'appelle directement Gaston Lagaffe, n'en parlons plus.
Ah lui, oui, oui. Ouais.
Ah c'est l'aubaine en fait.
C'est fou.
Non, c'est très impressionnant.
Vous l'avez trouvé comment?
Je l'ai trouvé sur une de ses gaffes, c'est-à-dire que j'avais reçu des essais de lui, mais j'avais même pas retenu son nom. Les essais étaient pas, j'avais rien vu, j'avais pas vu son génie. Et puis à 3 mois du tournage, j'ai dit à mon producteur, écoute, ce film, je peux pas le faire sans le Gaston de Franquin. Je préfère vraiment que tu trouves un autre réalisateur. Tant pis, j'ai écrit le scénario, mais je me sentais traître de pas avoir trouvé vraiment un type troublant, quoi. Et là, mon producteur me dit, tu sais que en bas de UG IGC, il y a quelqu'un qui vient pour un casting de Gérard Jugnot, qui vient pour le rôle, pour la finale, et il ne monte pas dans le bureau parce que il s'est endormi à l'accueil.
La finale, il faut faire attention, c'est le titre.
C'est pas la finale, pardon.
La sélection, la dernière sélection du dernier tour.
Oui. D'accord. Et il n'est pas monté, et il dort à côté de la standardiste qui dit à tout le monde, chut, il faut pas le réveiller. Enfin, un peu comme dans mon film.
Mais c'est fou.
Il dormait depuis 3 heures.
C'est
donc
fou.
Mon producteur va le réveiller et lui dit, bonjour, voilà, je sais que vous ne montez pas pour les essais du film qu'on produit, mais on a un autre film et je pense que vous feriez l'affaire. Et donc, Théo arrive dans mon bureau à un moment où je suis vraiment désespéré, mais sincèrement, je flippe, quoi. Je me dis, c'est foutu. Et quand la porte s'ouvre, là, j'ai le coup de foudre, comme quand on tombe amoureux. Et c'était dingue. Je me suis dit, mon Dieu, c'est lui, il parlait pareil.
Il manque plus que le pull, le col roulé vert, et ça y est.
Il avait l'air aussi un petit peu bête comme Gaston aussi. Enfin bon, pas réveillé.
Naïf.
Et puis, il dérangeait personne. Il faisait partie des meubles. Donc, je l'ai laissé dans les meubles, comme Gaston, pendant un mois, avant de lui dire que je le prenais.
Ceci étant, dans le film, il dérange du monde, vu les catastrophes qui s'enchaînent.
Il est très énervant.
C'est mercredi au cinéma, c'est Gaston Lagaffe. J'espère que vous avez compris, Tom. À quel point il fallait aller le voir déjà et pourquoi Pef était là.
Bon, on vient de l'expliquer. Déjà, on a tous un Gaston Lagaffe dans sa boîte. Le mec qui est maladroit, qui est tout le temps fatigué, il se cogne le genou dans une chaise, il y a 15 jours d'arrêt maladie. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir, Daniel. Et Gaston, c'est son petit truc, c'est les inventions. Voilà, moi j'ai été toujours fasciné par les inventeurs. Comment t'en viens à inventer un truc? Après, il y a inventeur et inventeur, bien entendu. Il y a le mec qui a inventé la roue. Bon, clairement, on peut le dire, il était inspiré ce jour-là. Pasteur, le vaccin contre la rage, on peut lui dire merci. Marie Curie, ses recherches sur l'atome, je dis bravo. Mais le mec qui a inventé les ouvertures faciles sur les sachets de fromage à bon, on voit l'idée de départ. Le mec, il se dit, ça peut faciliter les trucs. Mais une fois sur deux, l'ouverture facile, tu la trouves pas. Et l'autre fois sur deux, elle se pète. Donc voilà, c'est pareil. Qui est le gars qui a inventé le déodorant antitranspirant 96 heures? C'est beaucoup, ça fait 4 jours quand même. Bien sûr que ça existe. Ça fait 4 jours quand même. En 4 jours, il y a peut-être l'opportunité de prendre une douche, à moins de faire une garde à vue. Mais même Sarkozy, lui, il s'en fout. Il attend de repasser chez lui. Donc vous voyez, on s'en fout. Non, mais on va trop loin des fois dans la technologie. C'est comme le rasoir 5 lames. T'as la première lame qui te coupe le poil et les 4 autres qui t'arrachent la gueule. Mais on s'en fout. Tu vois, maintenant, t'as le pain de mie sans croûte. Déjà qu'à la base, le pain de mie, il est tranché. T'as même pas à le découper. Et là, maintenant, on nous retire la croûte. C'est quoi la prochaine étape? On va te vendre du pain de mie déjà tartiné. Après, il y aura plus qu'à le gober comme une huître. C'est terrible, tu vois. Il y a le papier toilette, triple épaisseur, feuille de bambou. Le panda, il le mange. Nous, est-ce qu'on a besoin de faire ça avec? Je ne pense pas. Puis, dans toutes ces inventions, il y a ceux qui se disent, il y a du pognon à se faire. Par exemple, il y a le lauréat du concours Lépine 2017. Lui, il a inventé un amplificateur de son en carton, sans câble, ni batterie pour smartphone. Voilà. En gros, c'est un gobelet. En même temps, quand t'as mis 900 euros dans un téléphone, il te reste plus grand chose pour payer des enceintes. Chérie, tu l'as vu, ma boîte à chaussures? Oui, ta gueule, j'invente les enceintes du futur. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Gaston Lagaffe, lui, il se concentre surtout sur des inventions qui facilitent la vie de bureau. Par exemple, aujourd'hui, énormément de gens travaillent en open space. Et moi, je pense qu'il faudrait inventer un écran qui ne fonctionne qu'avec une paire de lunettes. C'est-à-dire que chaque écran est relié à une seule paire. Comme ça, tout le monde a sa petite intimité numérique. Ton voisin, tu ne peux pas voir ce qu'il voit. Il y a des fois où c'est gênant. Tu finis un dossier, ton voisin, il met un porno, tu vois. Alors après, il faudra aussi lui dire qu'il faut mettre un casque parce que du coup, ça va s'entendre. Mais ça, c'est au boulot. Dans l'intimité aussi, par exemple, ce qui est super, c'est tous les trucs connectés, les écrans tactiles, les montres connectées, c'est génial. Mais au lieu d'améliorer les fonctionnalités, améliorer les batteries. Que mon téléphone, il reconnaisse mon visage, c'est génial. Mais si je suis obligé de le recharger 8 fois par jour, je vais me mettre à acheter un Labrador. Lui aussi, il reconnaît mon visage. La batterie! Un smartphone, faut le recharger tous les jours. Et t'as toujours un con pour dire oui, mais regarde, si tu retires tes notifications, tes alertes mail, tu coupes la géolocalisation, il tient 2 à 3 jours. Oui, à ce moment-là, on achète tous un 3310 de chez Nokia, et puis on met 8 ans à envoyer des SMS. Exactement. Si t'as un téléphone à 1000 balles et que tu t'en sers comme d'une CB, ça ne sert à rien. Moi, j'aimerais qu'on invente aussi une appli traducteur de couple. Par exemple, vous connaissez tous Shazam pour la musique, il reconnaît n'importe quelle chanson qu'il entend. Et ben là, ça serait pareil, mais dans une discussion de couple, il va te dire si tu vas te faire pourrir ou pas. Par exemple, tu fais une soirée arrosée avec des copains, tu envoies un SMS à ta femme, chérie, je vais rentrer un peu tard, elle te répond pas de problème. Et c'est là où l'application rentrerait en jeu. Traduction.
Bourre-toi la gueule. En revanche, cette nuit, tu dors sur le canapé. Et demain, je te ferai la gueule.
Voilà, si quelqu'un a un email de Mark Zuckerberg, signalez-vous parce qu'à mon avis, il y a un petit billet à se faire. Bonne émission à tous.
Merci, Tom Villa.
La bande originale. Nabi sur France Inter.
Leïla, quand on vous a dit que Pef venait dans cette émission, vos oreilles ont sifflé.
Et oui, et Pef, quand je pense à vous, je pense aussi à votre côté sombre.
C'est bien que tu sois venue. Pour Flo, je veux dire. Elle a besoin de toi. Léa aussi, elle avait besoin de moi.
Nous, on doit continuer à vivre.
J'arrive à peine à survivre.
Faut que t'arrêtes, là.
Mais arrêtez quoi?
Et de vouloir remplacer Léa.
On n'avait pas connu Léa. Personne ne pourrait lui résister.
Je vous demande de faire confiance. Parce qu'à part nous, seul le coupable connaît ce détail.
Vous avez pas envie que ça s'arrête?
J'en peux plus de faire semblant.
C'est un extrait de la bande-annonce de la série policière Disparue sur France 2, dans laquelle vous avez joué le rôle du père d'une ado qui a disparu. Un registre qui vous va aussi très bien. Vous évoquiez tout à l'heure Alison Wheeler qui pouvait tout jouer, même le drame, et que bientôt on la verrait sur grand écran, on l'espère. Mais j'ai l'impression que pour vous c'est pareil. Pourtant on vous connaît que trop peu à mon goût dans ce registre. Est-ce que c'est par choix? Est-ce que c'est par parfois manque d'imagination des réalisateurs qui vous perçoivent moins dans cette tonalité dramatique?
Moi, c'est vrai que...
Répondez!
Non, j'avoue que moi, j'ai toujours imposé le burlesque dans mes mises en scène, au café-théâtre, au cinéma et tout. Mais comme vous le dites, j'espère que ça va donner envie. Disparu, maintenant, c'est déjà sorti il y a quelques temps.
Ça avait très bien marché.
Maintenant, oui, c'est vrai qu'en France, quand on a une étiquette, peut-être on l'a pour la vie. Alors parfois, j'ai des collègues comme Marina Foïs ou Cadmerad qui, sur un malentendu, grâce à un film qui a eu du succès, paf, basculent et peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas le cas. Mais Disparu, ça m'a vraiment comblé.
Comment c'est venu à vous, Disparu?
Pareil, sur un malentendu, c'est-à-dire que la réalisatrice...
J'ai dormi au standard.
Non, mais la réalisatrice Charlotte Brandstrom, comme son nom l'indique, est une réalisatrice qui vient du Nord. Du nord de l'Europe, et du coup elle connaissait pas les Robin des Bois, et elle était vierge de moi quand je suis arrivé au casting, donc elle avait aucun préjugé. Elle a dit c'est lui le meilleur pour le rôle, et la production lui a répondu hors de question, c'est un comique. Et elle s'est battue, elle a dit mais comment ça, c'est comique, fou, moi ça. J'ai vu le personnage, j'ai vu le drame, c'est avec lui que je veux raconter l'histoire. On s'est opposé à sa décision et c'est France 2 qui a tranché, je tiens à le dire, parce que c'est grâce à ces gens-là, mais ça tenait vraiment sur un fil, c'est grâce à ces gens-là qui se sont battus, ils ont dû se battre alors que j'étais leur préféré aux essais, parce qu'on voulait les empêcher de me faire jouer dans un drame. Et voilà, c'est comme ça que ça
donc
se passe en France.
La production ne voulait pas de vous, la chaîne et la réalisatrice, oui.
Oui, mais ils se sont battus, hein. Il a fallu que je repasse des essais. Et moi, du coup, je me suis battu aussi parce que c'était le rôle de ma vie. Alors, attention, j'adore jouer Prunelle, mais j'ai pris un plaisir mais qui est très différent. Et ça m'a beaucoup remis en question. Ça m'a apporté beaucoup de choses de faire disparaître.
Vous pensez qu'il y a un complot anti-PEUF?
Non, il n'y a pas de complot. C'est comme ça en France. Aux États-Unis, on peut voir un animateur télé jouer dans un bon film, après chanter une chanson. Ouais. Ça ne dérange personne. Ils sont pleins de fantaisie.
Ouais, parce qu'ils sont capables de le faire.
Non, en France. Regardez Cadmerad.
Il y a Claire Chazal qui va tourner dans un meurtre.
Mais elle a déjà joué dans
Et Fred Testo. Fred Testo, c'est aussi cet exemple-là, très souvent associé à Omar dans le service après-vente.
Je suis hyper content pour Fred, par exemple. C'est un très bon exemple.
Ouais, qui arrive sur TF1 à incarner des personnages de fiction.
Oui, la télé a beaucoup changé ces dernières années. Et à la télé, ils sont beaucoup plus ouverts que dans le cinéma. Ouais. Et dans le cinéma, une fois, mon ex-agent m'a dit, quand je lui disais, mais moi je voudrais bien passer des essais pour des petits rôles dans des films qui n'ont rien à voir avec mon univers, et elle m'a répondu, tu ne fais pas partie de leur famille, PEF. Voilà.
C'est pour ça qu'elle est devenue votre ex-agent.
Voilà. Tout est dit, quoi. Ouais. Tu ne fais pas partie de leur famille.
C'est violent.
Voilà, donc, c'est comme ça. C'est aussi comme ça que ça se passe dans ce métier.
Et ça vous tenterait, vous, parce que maintenant, vous avez aussi les armes entre les mains, vous réalisez de...
Ah oui, écrivez votre film dramatique.
C'est ce que mon épouse m'a répondu. Elle m'a dit, mais de quoi tu te plains, t'as qu'à l'écrire. Mais
Je ne sais pas si c'est un...
Peut-être oui,
un
mais moi, j'adore faire confiance à un réalisateur que j'appelle patron. C'est mon patron qui raconte l'histoire, et moi, je suis à son service avec mes émotions, mes sentiments. J'adore cet état, alors que de jouer dans mes propres films, c'est très compliqué parce que je joue pour moi, donc du coup j'ai aucun regard. Quoi. Ouais.
Et vous aimeriez qui comme patron ?
Celui qui a une bonne histoire. Voilà. Non mais c'est vrai, celui qui a une bonne histoire, ça peut être un inconnu qui va faire son premier film. Peu importe, moi je suis pas snob, j'adore le cinéma français, mais il suffit de raconter une bonne histoire. Moi après je m'en fous du rôle principal. Participer à une bonne histoire, c'est ça. Et Disparu, c'était une très bonne histoire.
Oui, c'était une très bonne réaliste, histoire, très haletante.
Qui arrive malheureusement à des gens.
Mercredi prochain, Gaston Lagaffe au cinéma, signé, c'est le cinquième long métrage signé par PEF, et c'est une réussite, comme Guillermo Guise.
Il est bon, vous êtes bon, la vie. Il est bien. Bonjour les amis.
Salut.
Bonjour. Alors bon, pour paraphraser Édouard Philippe, dans les grandes lignes, je sers à rien. Mais je mange des gnocchis. Tant que faire se peut, je caresse des animaux. Pour paraphraser Leïla. Mais sinon, il m'arrive que des trucs banals. Genre, je déménage.
Non.
Ce quoi? Dimanche. Ah ouais. Oh, c'est tellement dommage, Ernesto, fils du soleil.
Je peux pas.
On devrait bien aider. Mais dimanche, on a cours de dressage de morpions. Quoi, toute l'équipe? Ah non. Bah oui. Enfin, nous, on apprend. Daniel, il enseigne. Mais je sais bien. Sur l'échelle des petits bonheurs de la vie, qui va de 1 à Penelope Cruz, je crois que réussir à éviter le déménagement d'un pote arrive en 2 ou en 3, je pense. Ouais. Juste après le moment où tu croyais que t'avais le sida, mais en fait non, c'est pas toi. Trop bien. Mais c'est vrai. C'est trop bien. Mais pourtant. C'est vrai, c'est pas toi. C'est Camus, c'est pas toi. Mais pour mon précédent déménagement, je me rappelle, j'avais demandé l'aide à un pote pour mon déménagement. Il m'a répondu samedi. Il m'a fait non, samedi, j'ai un enterrement. Malheureusement, je crois qu'il n'y a personne dans l'histoire des rites funéraires qui a été aussi heureux d'aller à un enterrement. Quoi. Je suis sûr qu'il est allé avec un panier à pique-nique et des raquettes de badminton. Ça. Enfin, merci, mamie, tu m'as sauvé la vie et tout. Vraiment, mon ami Younes Mernissi me disait toujours, les gens qui t'aident pour ton déménagement, c'est soit tes vrais amis, soit des déménageurs. Ça, c'est du Confucius. J'adore cette phrase. Il faut avancer dans la vie. L'appart que je quitte, c'était un peu un taudis. Là, c'est les insectes qui reprennent le bail. C'est vrai, chaque fois que j'essayais de faire l'amour à une fille, elle me disait, tu veux pas qu'on nettoie d'abord, s'il te plaît, vraiment? Oh non, sérieux. J'ai voulu loger des migrants. À un moment, ils m'ont fait, non, ça va aller, on va se débrouiller. Mais bon, mais ça me fait quelque chose. 4 ans, quand même, je me suis reconstruit dans cet appartement. J'ai aimé quelqu'un très fort dans cet appartement. C'est dans cet appart que j'ai écrit ma première chronique pour France Inter. Et peut-être que dans le prochain, je trouverai un vrai boulot. C'est vrai qu'un patron qui me respecte et des collègues de gauche va savoir. Mais c'est des rites de passage, les déménagements, c'est vrai. Refaire des caisses, c'est refaire le film de sa vie. J'ai trouvé des trucs incroyables. Enfin, j'ai retrouvé le sextoy de quand j'étais enfant de cœur. Dingue, quoi. Je l'ai jamais rendu au curé. C'est vrai, en même temps. Non, mais lui, il a gardé ma manette Nintendo et tout. Enfin, soi-disant, il était distrait mon cul. C'était juste un gamer. Non, je suis tombé sur des souvenirs. Mon camembert de quand j'avais 17 ans, que j'avais collé au mur au-dessus de la photo d'Ophélie Winter pour jeter un sort à M6 Solar, je me rappelle. Il y a de tout dans ce que j'ai rangé. La petite boîte fétiche de mon grand-père, où il reste quand même une bonne partie de ses cendres. Alors que, ça fait la troisième fois que je déménage, mon grand-père, et que je l'aimais bien, mais sans plus. Du coup, je l'ai jamais mis dans les caisses des trucs fragiles, tu vois, avec la porcelaine et les coupes à champagne. Mais je vous dis que des madeleines de Proust, en plus de ce qu'on retrouve toujours quand on prépare des caisses de déménagement, à savoir 36 chargeurs, 5 jeux de cartes, entre 100 et 160 câbles. À quoi ils servent? La science déterminera, on verra bien.
Des clés, tu sais pas ce que ça ouvre,
ou des clés? Pas de ça, de tout. Mais j'ai quand même gardé 77 câbles, 77, pardon.
Non, on l'avait compris.
Pour le prochain appart. À un moment ou un autre de ta vie, t'as toujours besoin d'un câble double jack Péritel qui fait en même temps chargeur de tondeuse de gazon et périphérique à DSL. On sait jamais, ce serait con de pas l'avoir à ce moment-là, quoi, vraiment. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé mes trophées de foot, mon autographe de Michel Thor, mon CD de Rage Against the Machine, de tout, plein de trucs qui m'ont accompagné dans la vie. Et à chaque déménagement, c'est le même dilemme moral. Je garde ou je jette, quoi. C'est vrai, il me reste plus grand chose de mon père, par exemple, à part sa caisse à outils. Mais bon, les outils, enfin, moi, j'ai bricolé une fois dans ma vie, ça s'est terminé au tribunal, quoi. Vraiment. Après, je continue de croire que c'était une mauvaise idée de venir me dire un secret dans l'oreille pendant que j'essayais de clouer une cabane. Mais, non, voilà. Mais apparemment, ça va être très important pour mon neveu, etc. Puisse-t-il retrouver l'usage de son œil? Soit, passons, qu'est-ce que j'en fais de cette boîte à outils? Chaque fois que je jette quelque chose de mon passé, je jette une partie de moi-même, quoi. C'est vrai, ma dignité, par exemple, j'ai retrouvé là, dans un sac de sport avec mon Tamagotchi et ma machine à croque-monsieur. Voilà. Mais la seule bonne nouvelle, c'est que vous ne devez pas venir dimanche parce que j'ai des amis formidables. Allez, bonne émission.
Merci Guillermo. France Inter, Nadi, la bande originale. Dans quelques instants, nous allons accueillir Didier Pazamonique, qui est un spécialiste de la bande dessinée, qui était éditeur, directeur de collection, journaliste, commissaire d'exposition. Il va te déchirer.
Oh là là, c'est la référence internationale, Didier Pazamonique. Attention, c'est du lourd en BD.
C'est le pape, c'est le grand rabbin de la BD.
Ouais. Oh, exactement.
Et en plus, si mes souvenirs sont bons, il a été très proche d'André Franquin.
Et oui.
Donc ça va être ma fête, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Exactement.
Mais on a dit que j'étais un escroc. Hein, bon.
En attendant, on va écouter la musique que Pef écoutait dans les années 90. Vous étiez, comme nous tous, je pense, sur Prince. Écoutez Prince, vous revoyez quoi, dans une chambre d'étudiant, avec des potes, à un concert?
Je revois mon meilleur ami qui m'initie à Prince avec Controversy, avec les deux premiers albums de Prince. On avait 15 ans et demi, 16 ans. Et puis, je sais pas comment expliquer ça, mais il m'a suivi toute ma vie, quoi. C'est très curieux quand on adore un artiste.
La BO de votre vie, Prince, ouais.
Toute ma vie, ouais. toute ma vie. Évidemment, j'allais le voir à l'étranger, j'allais le voir à Montreux, à Londres.
Ah oui, carrément.
Ah oui, 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 c'est très bizarre. Hein. C'est vraiment, c'est le seul. Moi, par exemple, je suis très timide, j'ose pas danser sauf quand je suis bourré. Mais Prince, j'ai jamais eu aucun complexe avec lui. C'est très curieux, quoi.
Et on vous donne pas de rôle dramatique après ça.
C'est vrai qu'on pourra me donner des psychopathes.
Dans le début des années 90, PEF, c'est la période qui correspond à votre pratique de théâtre de rue.
Oui.
Ça dure quelques années, je crois,
oui,
trois ans à peu près.
En Picardie, avec l'acte théâtral Vincent Martin qui continue de sévir, qui est un metteur en scène et acteur.
Et vous jouez forcément dans toutes les circonstances.
Ah oui.
Et c'est une vraie école.
Ah, c'est une belle école,
ouais,
très belle école.
Parce que vous êtes confronté à un public qui n'est pas là pour vous, quoi, en fait.
Voilà, parfois, ça, oui, oui, il y avait des fois. Et puis parfois, on jouait dans des marchés sans scène. Alors, quand il n'y a pas de scène, c'est encore autre chose. Et puis parfois, on jouait à Rennes, il y avait un très bon festival à Chalon. Et je me souviens, par exemple, on avait un spectacle très millimétré avec des rails, des chariots. Et chaque chariot passé, on était obligé d'avoir déjà mis le costume. Parce que ça nous attendait pas, et il y avait un clochard qui s'était mis au milieu, et donc il a fallu qu'on joue avec lui. Du coup, pour et on devait s'adapter,
ouais, c'est l'impro aussi, voilà. Par conséquent, et c'est là que vous sentez que c'est le burlesque, le comique qui est votre voix, ou...
En fait, c'est ma rencontre avec un auteur qui s'appelle Dubillard, que tout le monde connaît, et Maurice Barthélémy. On cherchait à faire quelque chose ensemble. On s'appelait pas encore les Robins des Bois, et il me donne les dialogues, et on lit Dubillard, et là j'ai les larmes aux yeux. Je me plonge dans cet univers absurde, et je m'aperçois que c'est ma voix, quoi, l'absurde. Vraiment,
c'est une révélation. C'est,
oui, parce que c'est la poésie qu'il y a dans l'absurde qui me fait planer et à la fois rigoler. Voilà, j'ai senti que c'était mon bain.
Vous parlez des Robins des Bois, vous étiez un peu le Gaston Lagaffe des Robins des Bois, le cascadeur, celui qui se cassait la figure à chaque... souvent, en tout cas, dans les sketchs.
Bah ouais, j'ai toujours... en fait, j'ai toujours préféré me casser la figure parce que c'était mon seul moyen de communication avec les filles quand j'étais... à l'école.
Et ça marchait?
Si, ça les faisait rire.
Ça met pas un pied dans ton lit non plus, hein. C'était vraiment... tu me diras, j'avais 8 ans, hein. Donc, et voilà. Il va y avoir encore les réseaux sociaux.
J'ai fait votre communion avec Guillaume.
En 2004, donc après l'histoire des Robins, vous écoutiez. Découvrez le jazz sur le tard.
C'est mon meilleur ami Olivier, pareil, qui m'a fait découvrir Coltrane et Charlie Parker. Et alors j'avais du mal avec le free jazz, mais petit à petit, puis je m'y suis mis grâce à Sade, hein, des trucs comme ça en fait. Je me suis mis au jazz grâce à des gens plus modernes, et puis après je me.
Ouais, qui avaient leurs racines dans cette musique.
Voilà,
ouais.
Exactement. Et
alors les Robins, avant de s'arrêter. On fait un film.
C'est oui, alors pour reprendre Claire Chazal, on a évoqué Claire Chazal tout à l'heure qui va jouer dans Meurtre A. Donc
non, elle fait comme si elle s'était gargarisée.
Comment vous le prononcez vous?
Mais bon, les fans le prononcent mieux que moi.
En tout cas, c'est le film qui sort en 2004, une comédie préhistorique réalisée par Alain Chabat. Et forcément, vous y avez tous mis votre grain de sel dans cette comédie. Vous avez particulièrement travaillé au scénario.
Oui, et on y a laissé des ailes pour faire la rime.
Ça veut dire.
Ouais,
vous
ça
souvenez,
échec, ouais.
Voilà, c'était la honte. Ce film était la honte.
Vous
la
avez
une
été
des
attaqué,
journaux.
Ouais, pas mal.
Oui, il y avait même des débats à la télé dans lesquels on n'était pas invité pour expliquer pourquoi c'était de la merde, pourquoi
comment
les
vous
Robins des Bois étaient des cons.
Je crois qu'il y a même eu
la une d'un quotidien pour dire que c'était mauvais. Ouais. Carrément la une.
Ah, oui.
Comment vous expliquez une telle déferlante alors que jusqu'alors les Robins des Bois bénéficiaient quand même d'une très belle image et d'une critique positive.
Ouais, mais on a voulu jouer avec les plus grands, et on a voulu attaquer Alain Chabat qui était, rappelez-vous, 14,5 millions d'entrées avec Astérix.
Oui.
Et la France, elle aime pas ça, elle aime bien aussi descendre les gens qui ont du succès, et je pense qu'ils ont voulu aussi se faire sa peau. Et puis aussi, non mais la vérité sans modestie, c'est que le film était très particulier.
C'était trop dans l'absurde.
Mais oui, le film était complètement absurde. Il y avait rien à comprendre. Ils ont essayé de comprendre là les Inrocks et tout leurs petits frères là. Et donc qu'il y avait des pages dans ces journaux-là pour dire pourquoi on est des cons. Mais oui, on revendiquait d'être des cons, mais du coup, ouais, ça a été...
On peut pas être un con quand on invente le biche volet.
Voilà.
Mais c'est une leçon, quoi. C'est de se dire
tellement
quoi.
Drôle,
qu'à un moment, c'est un film qui était en effet hors sol, hors tout.
Il est arrivé trop tôt, je pense. Ouais. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais il est arrivé trop tôt. On n'était pas préparé.
Non, franchement, on voit que vous êtes descendant des Monty Python. Enfin, il y avait vraiment quelque chose. C'est pas
le biche volé.
comme les noix de coco pour les chevaux dans les Monty Python. Enfin voilà.
Les trucs qui sont restés, c'est qu'ils sont cul, ça va être tout noir et tout ça.
Ta gueule. Vous savez que maintenant les jeunes qui étaient pas nés, qui étaient pas nés à l'époque, me demandent ça et ils me disent il va faire tout noir pour que je leur réponde ta gueule, et ils sont contents, ils sont tellement contents.
C'est vrai que moi, je suis triste pour l'échec du film et tout ça, mais en réalité, mon vrai prénom c'est Guy.
Guy.
Je m'appelle donc vraiment Guy, vraiment.
C'est
donc,
vrai.
Vraiment.
Tu veux qu'on en parle?
Je crois qu'il y a pas une semaine où quelqu'un m'appelle chez moi Guy. Et ça, c'est un peu grave.
Qu'est-ce qu'on a ri avec Alain? Vous pouvez pas savoir ce qu'on a ri sur le tournage. On était dans une forêt et on faisait gui pendant des heures et on riait, on faisait que rire. On était tellement heureux.
C'est ma croix depuis ce film, faut le savoir.
En 2006, premier film comme réalisateur, et là, vous écoutez. En fait. Plus le temps avance, plus vous écoutez des disques vieux, quoi, c'est ça.
Ah non, mais Dinah Washington, c'est ça aussi. C'est, dès que j'entends sa voix, je me sens bien comme un bébé dans un ventre, quoi. Je me sens bien avec sa voix, c'est inexplicable, quoi.
Et ce film que j'ai adoré,
Essaye-moi, c'est en 2006, votre premier long métrage avec Pierre Richard, Julie Depardieu et Isabelle Nanty. Est-ce qu'on se dit à ce moment-là qu'on va pas faire un truc trop burlesque? Enfin, est-ce qu'on tire une leçon de...
Non, pas du tout. Non, on ne tire pas de leçon, non. Essaye-moi, j'ai mis des années à l'écrire, à le monter. Il y a 5 producteurs qui se sont succédés à chaque fois en disant je le fais banco et qui m'ont abandonné. Et c'est Laurent Pétain qui a eu le courage de le faire. Oui, on n'a plus le droit de dire ça. Donc,
non, c'est
voilà.
Bien le courage aussi.
Et qui a eu le courage de le faire. Je parle de courage parce qu'il n'avait pas de financement, personne ne voulait l'aider. Et lui, il est tombé sous le charme du scénario. Et non, j'ai fait pas du tout, j'ai pas du tout lissé ce scénario. J'ai fait vraiment quelque chose que j'avais dans le bide depuis tout petit, une histoire d'amour qui est restée dans le fantasme. Et puis j'ai eu mon idole et Julie Depardieu qui est magnifique dans le film, qui est tellement belle et qui s'est prêtée au jeu.
Et en parlant de film culte, la tour Montparnasse infernale.
Là j'étais le gagman, personne ne sait, j'étais gagman d'Eric Ramsey.
C'est ça, et c'est là où vous avez eu envie de réaliser.
Oui, c'est grâce à Christian Fechner, le producteur malheureusement parti de ce film, qui m'a dit, il a vu le travail que je faisais avec Eric Ramsey tous les matins avant l'arrivée du réalisateur, et il est venu me parler après. Et il m'a dit tu dois faire ton film, et moi je disais non si tu dois faire ton film. Et je suis allé voir Isabelle Nanty et elle m'a dit écoute, tu sais quoi, on va commencer par t'acheter un ordinateur, parce que j'écrivais tout au crayon, ce qui énervait les Robin des Bois. J'écrivais tous mes dialogues au crayon, et c'est comme ça que je me suis lancé dans Essaye-moi.
Et puis il y a eu Prof aussi, adaptation d'une bande dessinée, adaptation d'une bande dessinée, justement Didier Pasamonic, il a très peur de ce que vous allez dire.
Didier Pasamonic qui a édité Franquin aussi, en plus.
C'est la légende vivante de la BD, Didier.
Alors, comment définir Gaston Lagaffe?
C'est un flemmard. C'est un flemmard et c'est un flemmard éternel, parce que c'est un caractère, en fait. C'est Gaston Lagaffe, c'est comme l'avare de Molière ou le Don Juan de Shakespeare. Ce sont des types littéraires éternels. C'est pour ça que ça n'a pas vieilli. C'est un personnage.
Donc il faut quand même qu'il ait cette dégaine, enfin qu'il soit déjà, il se tienne comme un S, quoi.
Le panache de la scoliose.
Ouais, c'est ça.
Oui, alors Gaston, c'est la Beauf Generation, c'est BOF.
Pas le Beauf, mais le Beauf Generation.
C'est-à-dire, ça vient après une période qui est celle de Franquin. Les premiers dessins de Franquin sont très raides, très très positifs. C'était le moment où on croyait, c'était l'après-guerre, on croyait que le futur allait donner plein de promesses. Et puis au bout d'un moment, tout ça retombe. Et Gaston, c'est un peu ce personnage comme ça, mou. Et je dois dire que...
Qu'on retrouve bien dans le film, d'ailleurs.
Qu'on montre bien dans le film. Je dois dire que, pour avoir rencontré Théo Fernandez, il est étonnamment...
C'est vrai, alors il confirme. Didier confirme. Gaston Lagaffe.
C'est tout à fait. Mais en même temps, c'est un grand comédien. Et c'est un film. On voit que c'est un film qui a été fait par un comédien, plus qu'un réalisateur, j'ai envie de dire, parce que la grande qualité de Franquin, c'était justement le jeu de ses acteurs, le jeu de ses personnages. C'est un gag de Gaston, c'est une mécanique fine.
Mais vous en parlez comme si c'était pas sa main qui le dessinait, c'est fou.
Oui, parce que c'était quelqu'un qui était...
Le jeu de ces comédiens, bah non, c'est un dessinateur.
Non, c'est quelqu'un qui est au-delà du dessin. Mmh. Moi, j'ai connu Franquin et Gaston Lagaffe, j'avais 13-14 ans, et j'étais un super fan. Et en fait, Franquin, c'était un type à qui on pouvait demander n'importe quoi. Alors, je venais le voir, je disais, fais-moi un coq. Et le type, vous dessinez un coq, c'est le Paganini du dessin. Et donc, il est au-delà. En fait, le dessin, Franquin, il adorait Bretéché parce qu'il se disait, mais c'est incroyable, ces gens travaillent presque pas, c'est un trait jeté et ils arrivent à faire quelque chose de formidablement incarné. Et moi, je suis un nul à côté de ces gens-là. C'est ce qu'il disait, Franquin.
Parce qu'il avait le sentiment de devoir rajouter des détails, d'aller dans la précision.
Qu'il avait compris que la vérité était dans le jeu. Que la vérité était dans les personnages, dans la mécanique du gag.
Ça a toujours été un succès, Gaston Lagaffe?
Non.
Dès le début?
Mais non, ça a mis du temps. C'était d'abord une animation du journal, et puis ce sont les lecteurs qui l'ont appelé. Et puis les premiers albums ont mis des années à venir. On les avait d'abord fait en petit format. C'est pas compliqué. Le premier album de Gaston c'était un strip d'une bande.
Donc en longueur. Hein,
en longueur, il a jamais été commercialisé. Ils ont perdu le stock. C'était imprimé sur des chutes de papier. C'est pour ça un
collector, si quelqu'un le retrouve.
C'est un collector. Donc il y a des exemplaires qui circulent, mais ça a jamais été distribué correctement. Donc ce n'est que dans les années 70, quand le marché de l'album a commencé à exister grâce à Astérix, il faut bien le dire, que les albums de Gaston ont pu arriver. D'ailleurs, il y a une comptabilité un peu bizarre. Par exemple, il n'y a pas de numéro 5. Le numéro 5 a disparu à un moment. C'est pour ça que Gaston, en permanence, ils sont en train de refaire les collections dans le bon ordre parce que ils sont longtemps perdus. Et Franquin en rajoutait parce que il se trouvait jamais bon. C'est-à-dire qu'il enlevait régulièrement des planches pour dire « Ah ben non, celui-là, il est pas terrible ». C'est quelqu'un qui avait une admiration incroyable pour les autres, mais qui pour lui était terrible.
Et alors vous dites la génération bof, je m'en fous, le Monfin. Le Monfin, il est né comment? Il est né dès le début aussi, Monfin?
Le gimmick, il est né plutôt tardivement. D'abord, il commence par dire « mes enfants », parce qu'on est dans Spirou, un journal éducatif, voyons. Donc ça va mettre facilement 150 gags avant que le « mes enfants » deviennent Manfin. Et puis après, ça deviendra un leitmotiv qui revient régulièrement.
Et c'est un anti-héros, mais très ancré dans le monde du travail, dans la société, la société de presse de consommation.
Mais en même temps, c'est une fixe. Vous savez, le gag réussit, ou l'histoire réussit, même en fiction, c'est un contrat passé avec le lecteur ou le spectateur. C'est-à-dire, c'est comme un jeu quand on dit que toi, t'es le policier, moi, le bandit, c'est une convention. Et en fait, ce monde de la rédaction de Franquin, de Gaston, n'existe pas. C'est complètement abstrait. Et c'est précisément ce qui fait que Franquin et Gaston sont restent éternels, parce que c'est une espèce de critique du tertiaire, c'est l'administration, en fait. Et comme c'est réduit au strict minimum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de détails, c'est très dépouillé, l'univers de Gaston Lagaffe, et bien finalement, ça reste contemporain, c'est très fort.
Alors pourquoi ces héros de bande dessinée, que ce soit Tintin, Gaston Lagaffe, Astérix, on les imagine pas grandir, vieillir, se marier, avoir des enfants? Ils doivent rester comme ça, d'une manière intemporelle, pour ce qui est de Gaston Lagaffe. L'ado, le stagiaire, il peut pas grandir.
Comme Tintin,
parce que Nagui, Gaston, c'est l'enfant qui est en vous. Et ça, vous le conservez toute votre vie. Donc pourquoi le faire vieillir, ce serait dommage de le faire vieillir.
Il aurait plein d'ennuis en plus en se mariant.
Voilà, donc...
Dis donc.
Ouais, mais en fait, on va bientôt fêter les 20 ans du Viagra, donc ça peut...
le succès à l'étranger existe ou c'est vraiment francophone?
Surtout, il est surtout européen. Il est surtout européen pour une raison très simple, c'est que l'humour, c'est très difficile à traduire. Mais ça reste c'est un véritable culte en Scandinavie, en Allemagne, c'est très très important.
Didier, ça se traduit pas puisque c'est des gags visuels pour le coup. Ça repose plus sur le visuel que sur des jeux de mots.
Même tu ris pas de la même chose en Angleterre et en France.
On rit pas de la même chose. D'accord. Et puis il y a des jeux de mots comme lontarin, etc. Oui. Qu'il faut retransposer. C'est parfois très compliqué.
Oh bah big nose.
C'est vrai, mais...
Nagui se propose de là.
Non, j'ai juste donné mon surnom, c'est tout. Mais ça, c'est pas trop compliqué.
Mais enfin, big nose, c'est pas long tarin. Il n'y a pas de notion de longueur, il y a une notion de grosseur dans big nose. Donc Gaston serait plus big nose que long tarin.
D'accord. Est-ce que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, le film pour vous est fidèle à l'univers, à l'esprit de Gaston Lagaffe.
Alors, faut bien dire quand on arrive dans le film. Mais c'est vrai. On va trouver ça un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce Gaston dans une start-up qui s'appelle Au Petit Coin. En plus, c'est des Lika. Et puis surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est ce de Messmaker avec sa perruque, avec des cheveux. Voir de Messmaker avec des cheveux.
Au début, on va dire.
Très vite, la mouette va rétablir la vérité.
Et vous avez aimé, Didier.
Et j'ai adoré ça parce que j'ai vu un réalisateur qui non seulement avait compris ce que c'était que l'humour de Franquin, mais qui en rajoute, en fait. C'est évidemment que la mouette qui enlève la perruque de Messmaker, ça n'existe pas dans Gaston Lagaffe.
Mais ça aurait pu.
Et en même temps, je me suis dit, il s'est passé quelque chose avant ce film, parce que voilà, Au Petit Coin où il y a Gaston, mais alors il n'y a pas que Gaston, il y a tout le monde. Il y a Prunel, il y a Mlle Jeanne. Donc tous ces gars ont quitté Spirou et Dupuis en même temps. C'est énorme en fait. Gaston a quitté Spirou pour aller dans une start-up et tous les autres ont suivi. Et donc, là, je me suis dit, Dupuis, il doit être dans un mauvais état.
des Gastons, alors il y a une hors-série, pardon, de Méga Spirou avec Gaston le gaffeur qui avait du nez et qui sort en parallèle avec la sortie du film le 4 avril, mercredi prochain. Être adoubé par la famille Gaston Lagaffe, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire, j'imagine.
C'est sûr. J'ai eu tellement peur, vous pouvez pas savoir. J'ai eu très très peur. Déjà quand on m'a dit que j'étais l'élu, c'est-à-dire que c'était...
Ils acceptent.
Que c'était moi qu'on avait choisi, je savais plus si je devais être content ou pas, tellement j'avais peur en fait, parce que je me demandais, un peu comme les fans, je me demandais si c'était possible de le faire au cinéma, s'il y aurait un jour un être humain capable d'incarner Gaston aussi bien que dans la BD... Et puis petit à petit, à force de travailler et de bien m'entourer, parce que mon directeur de la photo, mes costumières, le décorateur, on a tous travaillé dans le sens avec la passion du graphisme comme l'avait Franquin. Et puis finalement, les peurs sont transformées en amusement, parce que comme le disait Didier Passamonique, en fait, on a gardé notre âme d'enfant pour faire ce film, et c'était le secret quoi, de rester des gamins.
Et puis c'est un énorme succès, 30 millions d'albums vendus. Gaston Lagaffe, 30 millions.
Ouais. Et 320 millions d'exemplaires de Spirou qui sont bien vendus grâce à Gaston.
Et qui sont réédités dans l'ordre ou pas dans l'ordre, je sais pas. Alors si là maintenant,
non seulement ils sont réédités strictement dans l'ordre, mais en plus toutes les couleurs ont été restaurées. C'est-à-dire que le problème de l'édition, c'est que la photogravure dans les années 60, Spirou est imprimé en typo, donc c'est une impression très très fruste. Toute cette photogravure était très aléatoire et pas toujours de très bonne qualité. Donc tout a été refait le plus possible à partir des originaux grâce à Frédéric Janin, qui est un dessinateur, qui est un vrai fan de Franquin. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est probablement l'édition la plus fidèle qui n'ait pas été publiée. Ça ressort d'ailleurs à l'occasion de ce film.
Merci mille fois d'être venu à ce micro et d'avoir adoubé Pef qui vous avait mis une pression phénoménale. Il avait très très peur. T'avais un truc à dire?
Pas du tout. Non, il parlait de Frédéric Jalien, qui est un de mes tout proches amis que je salue parce que je pense qu'il nous écoute. Voilà.
Très bien. Et tu es ami avec Tanguy Passion?
Les Belges, la BD quand même, faut pas leur.
Oui, je suis belge aussi là. Et alors.
Ça va.
Moi aussi, je porte Didier comme.
Oh là là, dimanche, j'ai présenté le film à Charleroi, qui est quand même le siège de Gaston, et à Bruxelles, et j'étais dans mes petits souliers, et c'était magnifique parce que tous ces Belges. Qui sont les parents de Gaston, quoi. Donc c'est leur propriété à tous. Ils sont venus pas avec un fusil dans les mains, mais ils appréhendaient. Et puis de pouvoir parler avec eux à la sortie, les voir morts de rire, j'étais plus que soulagé, quoi.
J'ai l'impression que vous préférez avoir les remarques des amoureux de Gaston Lagaffe que des critiques de cinéma avec des étoiles.
Non, c'est pas ça. Ce film, je l'ai fait vraiment pour tout le monde. Mais d'ailleurs, quand les enfants de 4 ans sont morts de rire, je suis hyper ému, même s'ils connaissent pas la BD, mais de savoir que les fans trouvent ça fidèle, bah c'est une belle récompense, parce que j'ai voulu être juste fidèle, quoi.
Et c'est le cas. Et moi, j'ai pas eu le sentiment aimant Gaston Lagaffe. Je suis un peu comme vous. J'étais agréablement surpris. Ça va plus loin. C'est pas juste. On reprend le même et on essaye de s'approcher. Il s'est approprié et il lui donne une autre dimension tout en restant fidèle. Merci beaucoup, Didier, d'être venu à ce micro. Merci. Tanguy est là. Tanguy Pasturo. Tout à l'heure, vous allez nous parler de Kim Jong-un qui est en train de se détendre.
Oui, le dictateur nord-coréen depuis des années avait l'air chafouin. Le matin, il se regardait dans le miroir, hurlait : qui a fait ça à mes cheveux? Était de mauvais poil toute la journée. Mais là, il se relaxe. Cette semaine, il est allé en Chine, son premier voyage officiel depuis 7 ans. Et la Corée du Sud lui propose de recevoir le chanteur Psy. Vous savez, la danse du cheval, ouais. Et la con, là. Bon, alors là, par contre, il n'est pas chaud. Vous allez voir pourquoi.
On en parle tout à l'heure après les infos.
Tout à l'heure.
C'est la bande originale. Et oui, avec Leïla Kadour-Boudali, Tanguy Pasturo, Guillermo Guiz, Monsieur Guy, Daniel Mort, Tom Villard,
bonjour.
Et notre invité, Monsieur Pep.
Bravo, très fort, ouais.
Il avait un papier, c'est pour ça, il s'en est sorti.
Très fort, et c'est exactement ce que l'on pense après avoir vu Gaston Lagaffe, après avoir entendu les commentaires de Didier Passamoni, qui pourrait être juge de sentence, vous critiquer sur tel ou tel défaut. Cette pression, vous l'avez senti. Déjà, vous avez dit tout à l'heure, j'ai été choisi pour pouvoir faire le Gaston Lagaffe. Ça veut dire qu'il y avait d'autres potentiels réalisateurs qui prétendaient ou
quand
postulaient.
Quand on a appris en 2013 qu'il y avait ouverture, on a tous tapé à la porte du bureau.
Une espèce d'appel d'offres. Ils ont dit qui veut réaliser Gaston Lagaffe.
Oui, oui. Et puis il y avait des grands producteurs que j'adore, des réalisateurs, des acteurs qui sont venus postuler. Et moi, j'ai dit à mon producteur, dont c'était le rêve d'enfant d'ailleurs, avant de vouloir être producteur, il voulait faire un jour Gaston au cinéma. Et je lui ai dit, mais on peut pas aller à ce rendez-vous, je suis nul en rendez-vous, moi je suis nul, enfin c'est vrai, moi je sais faire juste le couillon, je sais pas me vendre, quoi. Et je lui ai dit, donne leur rendez-vous sur une terrasse de café et je m'occupe du reste. Donc il les a mis face à la route, c'était dans le 7e là, vers les Invalides, et là j'ai loué la voiture de Gaston à Damier jaune et noir.
Génial.
Je me suis déguisé en Gaston, alors j'étais pathétique par rapport à Théo Fernandez, hein, je tiens à dire, mais bon, j'avais la perruque, j'avais les espadrilles, j'avais tout ce qu'il faut.
Le pull vert à col roulé.
Voilà, exactement. Et là, il m'envoie un texto sous la table en me disant green light, quoi, ils sont prêts, on démarre le rendez-vous. Et là, je passe en voiture, je voulais faire comme un mirage, quoi, qui se mette à se dire non, on a rêvé. Donc je passe en voiture sans m'arrêter. Manque de peau, un des ayants droit non seulement croit rêver, mais en plus se lève comme un fantôme et se met à me courir après sur les Invalides en disant revenez, c'est dingue, on est les patrons de Gaston Lagaffe, vous avez sa voiture, on a certainement des choses à nous dire. Et moi je me suis enfui parce que j'avais d'autres gags à faire, donc je me suis enfui. Et le type, il avait les larmes aux yeux, il croyait qu'il était dans un rêve. Et donc j'ai fait demi-tour et là je suis rentré dans un arbre. Il y avait des fumigènes, il y avait un accessoiriste caché sous la banquette. Je voulais faire de la pollution dans le pot d'échappement. J'avais un airbag déjà. Et puis j'avais les contrats de Messmaker, en fait, pour symboliser le contrat que je voulais signer.
Génial.
Ah non, mais c'était
dingue. Il y a 20 000 euros.
Et le PDG et d'ailleurs, un petit hommage.
Donc vous êtes très bon au rendez-vous.
Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, vous me parliez gentiment de Disparu. Mmh. Je tournais Disparu à Lyon. Et donc une voiture à 4 heures du matin, parce que je tournais avec deux maisons, des scènes de nuit. À 4 heures du matin, une voiture m'a emmené à ce rendez-vous. J'avais j'avais pas dormi de la nuit, donc j'étais au taquet. Et j'arrive au PDG de Dupuis avec les contrats, et comme un couillon, je fais tomber tout son Coca-Cola sur son costard de PDG. Enfin bon, ça dépassait mes rêves.
C'était voilà, pour vous.
Vous avez un bon résumé. Ouais. Et le film, vraiment, dure à peine une heure.
1h24.
J'allais dire une heure.
Mais c'est assez, hein, parce que.
Mais ça va tellement vite.
Autant de gags en 1h24.
Ouais, exactement. Oui, j'ai pas compté le nombre de gags, mais il y en a un par plan. Voilà. Il n'y a pas un moment où vous avez le temps de regarder vos pop-corn au cinéma ou de parler aux voisins. C'est impossible. Et c'est réussi et c'est fidèle à Gaston Lagaffe et c'est signé PEF. Voici Tanguy Pastureau. Hey. Tanguy, on a des nouvelles donc de Kim Jong-un, l'homme fort de la Corée du Nord.
Oui, le dictateur coiffé par Jardiland avec un râteau à gravier est en train de s'ouvrir. C'est le printemps, il a la même vie que les jonquilles. Alors cette semaine, il est allé en Chine voir Xi Jinping, un autre type qui discute très peu. Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est comme vous, Nagui, dans votre jeu du midi. Il dit « Ah, dommage Patrick, c'est perdu ». Sauf que lui vous envoie dans un camp de travail forcé, chose que vous ne faites pas vous puisque vous êtes trop doux. Alors Kim Jong-un n'avait pas quitté la Corée du Nord depuis 2011, 7 ans qu'il n'avait pas bougé. Le site Expedia avait renoncé à lui envoyer ses newsletters. Et là, envie subite, il a appelé Kim Jong-un Airline, a demandé un billet à une dame qui hurlait « Oui, guide suprême, où vous voulez, divin cocker toiletté, prends-moi mon gros bichon !» Et il s'est taillé. Alors Jinping, le chinois, vêtu d'un costume Mao, l'habit d'il y a 50 ans, hein. C'est comme si Nolwenn Leroy déboulait chez Drucker avec une coiffe bigouden et du poil au menton comme Mamie K-League, a accueilli Kim, lequel était sapé comme d'habitude en bidasse, hein. Il a un costume en tout, comme Ardisson, sauf que lui n'a jamais à se taper d'interview de Sophie d'avant. Et là, Kim a promis à Xi de dénucléariser son pays. C'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'il lâche des missiles, les trucs s'écrasent en mer du Japon, c'est la dernière baleine pas encore boulottée par les Nippons qui se la prend, il a plus appuyé sur le bouton qu'Obispo quand un prépubère crache ses bacs dentaires en glapissant du Marina Kay, et là, il arrête tout. Hein, ça revient à se taper 30 heures de conduite, et le jour du permis, dire à l'inspecteur « Tu sais quoi, vieux, en fait, j'ai réfléchi, je vais acheter des rollers. » Alors, la phrase « Je vais acheter des rollers » n'a pas été prononcée depuis 2005.
C'est vrai.
Comme la phrase « Tiens, je vais mettre énergie douce pour voir s'il y a un truc d'intéressant. » Alors, Kim Jong-un, interrogé par la télé locale, Xi Jinping TV, a d'ailleurs dit que son père Kim Jong-il et son papy Kim Il-sung, qui s'appelle tous Kim, quand vous interpellez quelqu'un là-bas en criant « Kim », il y a 1600 personnes qui répondent « Ouais !» Bon, et ben, il a dit qu'ils étaient eux-mêmes pour arrêter le nucléaire. C'est idiot les a priori, parce qu'on s'est fait une image dure de... Bah et oui. En fait, les Kim, ce sont les descendants des babacools miteux qui en 72 peuplaient l'Ardèche. Hein, vous allez voir Kim Jong-un, il vous dit « Salut man, tire une latte !» et il vous tend un énorme pétard à son effigie, parce que c'est obligatoire là-bas. Il n'y a que les champions d'origami qui peuvent rouler.
Non, j'arrive pas à croire que Kim Jong-un a changé à ce point.
Bon, non, on a... ah bon. Bien sûr, parce qu'il garde ses vieux réflexes. Par exemple, la Corée du Sud, avec qui il s'est aussi rapproché, parce qu'en ce moment, ses chakras sont plus ouvert que les Franprix à Paris, lui a proposé d'accueillir Psy, leur star locale, hein, qui a chanté le Gangnam Style en dansant comme s'il était juché sur un poney épileptique. Alors ceci dans le cadre d'un échange culturel entre les deux pays, parce que Psy pour eux c'est culturel. Hein, c'est comme si nous on disait à l'Espagne bonjour, vous nous prêtez un Picasso et trois Miro et nous en échange on vous donne Coé. Donc Jong-un apparemment n'est pas chaud, hein, parce que ça ferait passer direct la Corée du Nord décorale à sa gloire avec des gosses qui piaillent Kim Jong-un est le plus beau, le plus fort et fuck Frank Provo à la danse du cheval sans palier intermédiaire comme Maître Gims, Kinvey ou Jul. En plus, le Figaro nous révèle que Jong-un juge Psy comme étant subversif parce que le Gangnam Style a pour thème le quartier huppé de Gangnam à Séoul. C'est comme Beverly Hills, hein, sauf que lieu de s'appeler Brenda ou Dylan, ils s'appellent tous Kim. Or, Jong-un est communiste. Hein, donc la vie de luxe, les beaux coins, pour lui, c'est la même chose que la discographie du groupe Satan pour Christine Boutin. Une hérésie. En plus, Psy dans le passé, alors, s'est dévêtu sur scène, ce qui est moins exceptionnel que si Beyoncé arrivait vêtu sur scène. Et il a été pris fumant de la marijuana. Hein, chez nous, mais c'était les gosses qui écoutaient Psy. Donc c'est comme si en 84, on avait retrouvé Chantal Goya par terre dans son vomi chez Iggy Pop, tandis qu'Iggy Pop disait « Je comprends pas, il a pris seulement 16 doses d'héro. » En tout cas, Jong-un, la drogue, il n'aime pas. Le clinquant, il n'aime pas. Et la musique, ils n'aiment pas, parce qu'en Corée du Nord, elle est contrôlée. Hein. C'est-à-dire qu'on a juste le droit de chanter des chansons sur Kim Jong-un ou comprenant le mot Kim. Si bien que là-bas, les nuits sans Kim Wilde de Laurent Voulzy est un énorme tube.
Ah, hein, j'attendais.
Si Voulzy se barre en Corée, les filles lui hurlent « Lolo, fais-moi l'amour !» Ce à quoi il répond « Hola, doucement, j'ai déjà pas de jus pour dépoter plus d'un single tous les 4 ans. Donc si tu veux, je t'abonne à Netflix, tu vas voir, c'est super, c'est ce qui a remplacé le sexe chez nous. » Alors, à noter que selon la presse, les Nord-Coréens, eux, sont enthousiastes à l'idée d'accueillir Psy, puisqu'ils l'écoutent en cachette sur des clés USB, hein, alors qu'on risque la tôle à faire ça là-bas. Hein, chez nous, pour aller en prison, il faut minimum avoir découpé sa sœur à l'aide d'une tronçonneuse à disque. Et encore, si vous avez un traumatisme d'enfance, genre si vous avez redoublé le CP, bon bah le juge vous met du sursis. Mais en Corée du Nord, 3 minutes de danse du cheval, vous vous retrouvez sous la douche avec 60 autres Kim qui ont écouté soit Eminem, soit Ball Lavabo de la gaffe, parce que tout est interdit. Hein, on est donc rassuré, Kim Jong-un se relâche un peu, mais pas trop non plus. Et la dictature est le seul modèle politique à protéger les tympans du peuple.
C'est ça, oui. Merci de l'occupation. Sur France Inter. Avec Pef, qui est notre invité, nous parlons de Gaston Lagaffe, le film qui sort mercredi prochain. Nous serons le 4 avril. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans l'écriture, la préparation, la direction de Théo Fernandez?
Je dirais le écrire une histoire qui se tienne. Quoi. Ça a été le plus long. Ça m'a pris 2 ans et demi. Parce que dans la BD, il n'y a pas d'histoire. Hein. Donc voilà, écrire une histoire. Parce que pour moi, c'est toujours la pression que je me mets, c'est que je veux jamais faire un film à sketch. Et je peux facilement tomber dedans, d'ailleurs.
Donc il fallait une intrigue.
Voilà, une intrigue.
Qui était en l'occurrence la vente de la société.
Exactement.
De la start-up.
Avec mon co-auteur Mathias Gavary, on s'est servi justement de ce qu'on avait devant nous, c'est-à-dire de Messmaker. Je me suis dit, c'est un personnage important de la BD et ça doit aussi venir de lui. L'intrigue doit venir de lui.
Aucun personnage n'a été rajouté. Tous ceux qui sont dans le film sont...
Non, je crois que j'aurais pas eu le droit d'ailleurs. Mais en revanche, j'ai pris quelques personnages qui sont comme des figurants dans la BD. Par exemple, Sonia, qui n'a pas de texte, qu'on voit une belle Sonia. Il y en a trois de secrétaires dans la BD. Donc j'ai pris la brune et j'ai développé un vrai grand second rôle pour Charlotte Gabrice. J'en avais besoin pour l'histoire. Et Raoul, par exemple, qu'on croise à la photocopieuse, mais qui n'a pas vraiment de texte. C'est Sébastien Chassagne qui l'incarne. Un très beau rôle aussi.
Et les inventions de Lagaffe, il fallait aussi les respecter, les glisser dans les...
Oh bah c'était même pas une contrainte, c'était vraiment le bonheur, quoi. J'avais qu'à piocher, j'étais comme un enfant pourri gâté, comme dans le jouet là, avec Pierre Richard, dans un magasin fermé à clé que pour moi, et personne au-dessus de ma tête à me donner ses conseils, et d'ailleurs... Je me servais de mes goûts d'enfant, hein, parce que le télésiège, par exemple, m'a toujours marqué. J'ai jamais oublié ce gag-là. C'est-à-dire que Gaston n'a pas envie de se faire caguer à marcher dans l'entreprise. Et donc, il a mis...
Ça, c'est le Marseillais. Hein.
Il a mis un télésiège,
tout simplement. Il n'a pas envie de s'embêter.
De s'embêter, pardon.
Voilà.
Et c'est pas exactement la traduction. Mais pardon,
il a mis un télésiège, voilà, pour ses copains aussi, parce qu'il est altruiste, Gaston. Sauf qu'il a oublié de... Il a mis qu'un seul câble. Donc, je vous laisse imaginer comment les gens se croisent.
C'est un Gaston altruiste et aussi très soucieux de l'environnement.
Oui.
Parce que
écolo, oui.
Voilà, on voit quand même que toutes les préoccupations, sa voiture, c'est quand même aussi ça, c'est
le chauffage
électrique, chauffage.
Ça l'empêche pas de polluer, hein, pardon de vous couper. Mais...
Oui. C'est un inventeur, mais aussi qui cherche à améliorer le quotidien des gens.
Oui. Bah ça c'était Franquin qui était un précurseur, hein, parce que à part Cousteau et Franquin, on parlait pas de ça en 1960, quoi. Et lui, ça le préoccupait. Ça m'étonne pas de lui, parce que Franquin c'est un vrai poète et moi j'ai beaucoup exploité, parce qu'en plus c'est complètement d'actualité. Et bon, je suis allé peut-être un peu plus loin. Il roule avec de l'huile d'olive, voilà. Et puis j'ai mis quelques panneaux solaires
sur la
voiture.
Sauf quand il est pressé.
Voilà. Quand il est pressé.
Se charge en gaz. Et puis il y a un petit côté Beatles aussi dans le concert sur le toit.
Mais on m'a dit ça et j'ai vu le concert sur le toit et je me suis dit mon Dieu, c'est vrai que c'est
concert sur le toit des Beatles qui a été interrompu par les voisins. C'est le dernier concert.
C'est le dernier.
Et les voisins ont appelé en disant il y a un groupe qui fait du bruit sur le toit.
Mais non.
Et ils l'ont arrêté au bout de 20 minutes alors que les mecs étaient prêts à faire un concert gratuit pour tout le quartier.
Elle est belle cette photo là et la vidéo des Beatles.
De Get Back entre autres sur le toit. Film réussi et je tiens tiens à préciser aussi, au-delà de l'humour, du rythme, de votre manière de diriger les comédiens, de votre casting, les effets spéciaux sont là au service du gag, et ils fonctionnent, parce que c'est pas évident de faire décoller quelqu'un d'un fauteuil pour l'exposer dans le plafond, et ça marche.
C'est gentil pour eux, parce que les Versaillais et MacGuff, vous pouvez pas super savoir, bon. Ils étaient comme des enfants, ils ont travaillé un an sur le film, et c'était vraiment comme des professeurs tournesol. C'était très beau à les voir bosser. Ils passaient leur journée à construire des machines que Théo Fernandez allait péter juste après. C'était complètement dingue, quoi. Et moi, j'arrivais, je disais plus d'eau, plus de flammes, plus de machins, de catapultes, etc. C'était.
Travailler pendant, vous dites combien de temps? Un an d'effets spéciaux?
Le tournage est très rapide. Le tournage, il dure 45, 47 jours, mais il y a des mois de préparation. Et puis après, il y a des mois de montage où on rajoute des effets spéciaux aussi. Par exemple, on a le film le 4 avril, quand il sort, ça fera un an qu'on a fini de le tourner.
Des mois de préparation et des effets spéciaux, tout ce qu'il n'y a pas chez Daniel Mohr.
Ah là là, la très belle transition. Oh là là.
Ça dépend, la transition du salaud. On appelle ça comme ça. Attention! Aïe, 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 ça fait mal?
C'est une fessée?
Mais c'est bon. Non, c'est en tout cas le message qu'essaye de faire passer le film 50 nuances de gris, la trilogie sadomaso qui a fait frissonner des millions de spectateurs à travers le monde. Eh bien, figurez-vous que pour certains, ce film a déclenché bien des curiosités. Tout récemment, le community manager des magasins d'articles de sport Decathlon a annoncé que grâce à la saga 50 Shades, 50 nuances, ses ventes de cravaches avaient explosé.
Non.
Eh si, il a annoncé ça en début de semaine. Si ça se trouve, vous ne le savez pas, mais grâce au cinéma autour de vous, parmi vos proches, il y a plein de nouveaux adeptes des pratiques SM. Le sympathique facteur qui chaque matin apporte les lettres et les colis. Si ça se trouve, quand il arrive chez votre voisin, c'est radicalement différent. Bonjour madame, c'est le courrier.
Silence! Mets ce baillon sur ta bouche, vilain facteur, et retourne-toi. Silence! Alors, il est où pour commander? Mon colissimo, t'en as fait quoi? Quel salaud, va!
Oh là 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 là, et moi qui croyais que tout ça s'était passé et que c'était dans mon imagination.
Autre exemple, vous croyez qu'il se passe quoi pendant la garde à vue de Sarkozy, hein? Vous croyez qu'il s'est passé quoi la semaine dernière?
Alors Nicolas, tu l'as financé comment ta campagne de 2012?
Mais puisque je vous dis que c'est les adhérents de l'UMP qui m'ont donné de l'argent.
Ah ouais?
Oui, ça. Qu'est-ce qui transportait les valises de cash?
C'était Jean-Claude.
Claude, pardon. Claude qui?
Je sais plus.
Aïe, c'est trop bon, encore.
Quoi? Je sais plus. Je
dis-le-moi, sinon je te cogne plus.
Oui, Claude Guéant, c'était Claude Guéant. Allez-y, pitié. Encore un petit coup de cravache.
Tu vas signer tes aveux?
Oui, tout ce que vous voulez. Allez-y encore, c'est bon. Oh, oui.
C'est bon, alors? Vive Kadhafi, longue vie à Balkany. Ici même, j'ai assisté, je peux vous le dire maintenant, je m'en fous, à des scènes incroyables.
Nagui.
Comment?
Nagui?
Maître Nagui, espèce de chien de rédacteur en chef.
Pardon, Maître Nagui, tenez, vos fiches pour l'émission.
Tu te fous de moi?
Non, pourquoi?
C'est quoi ces ratures dégueulasses?
Oh oui, Maître Nagui, allez-y, je l'ai bien cherché, mes coups de cravache. Je ne suis qu'un rat d'égout, je ne vous mérite pas. Je vais refaire vos fiches, Maître, je vais les refaire mon propre, mais...
Mais quoi, chien?
Pétez-moi la gueule, je ne suis qu'un pourceau. C'est bon.
Un truc à vous dire, il n'y a pas de mal si c'est entre adultes consentants, et même sans consentement, si c'est avec un stagiaire. À demain.
Merci, Léon.
La bande originale avec Nagui.
Et Pef, qui est notre invité, qui vous annonce et nous vous annonçons la sortie de Gaston Lagaffe mercredi prochain, le 4 avril, à voir en famille. Je pense que c'est important d'y aller déjà à plusieurs et toutes générations confondues.
Ouais, ça a été un des plus grands moments, la première fois où je me suis caché dans une salle au milieu des familles, et à côté de moi il y avait un petit qui riait avec sa mère aux éclats et qui regardait même plus l'écran, il regardait sa mère et il rejouait ce qu'il venait de voir, et je me suis dit tiens, j'ai fait ce film pour ça, pour que ça soit la fête. Il y avait des gens debout, c'était un peu le bordel, et je me suis dit tiens, je voulais faire un spectacle qui démarre fort, qui finisse en cataclysme, et voilà.
On parle pas de vie privée autour de ce micro, mais on peut quand même dire que c'est le papa là qui parle, c'est plus le réalisateur.
Bah c'est-à-dire oui, c'est vrai que ça m'oriente. Bah oui, bah oui, parce que moi, pendant 3 ans chez moi, c'était oh tu fais encore Gaston Lavache, tu fais encore Gaston Lavache, et j'arrivais même pas à dire la gaffe. Et d'ailleurs, elles avaient peur, elles étaient encore petites quand elles venaient sur le tournage et qu'elles voyaient Théo, elles avaient peur de lui parce qu'elles croyaient, j'avais pas compris au début, elles croyaient qu'il sortait de la BD. Croyaient vraiment que, et donc elles comprenaient pas, elles l'avaient à la maison parce que pendant 3-4 ans, j'ai eu sur mon bureau toutes les BD.
Tous les Gastons, ouais.
Et du coup, elles le voyaient en vrai, elles comprenaient pas, elles ont mis un temps fou à accepter un bisou de Théo Fernandez.
Mercredi, donc sorti au cinéma, vous jouerez dans un épisode du Capitaine Marlowe qui est un énorme succès.
Ah ouais, vous êtes au courant de tout, donc.
Sur France 3 avec Corinne Massiereau.
Oh, j'ai adoré.
Pierre Perret
dirigé
aussi.
Par José Dayan. Ah oh là là, non mais je souhaite à tout comédien un jour dans sa carrière d'être mis en scène par José Dayan. C'est vraiment un monstre sacré. C'est la vieille école. Elle est incroyable, cette dame avec son cigare. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et puis Corinne, c'est une très grande actrice. Je suis hyper heureux pour ce qui lui arrive parce que vous savez,
gros succès, oui.
Quand ils ont créé cette série, personne n'en voulait. Et j'espère que je raconte pas un secret. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit à table. En fait, personne n'en voulait parce que Corinne n'était pas connue. Et José Dayan a appelé Gérard Depardieu et elle lui a dit « Gérard, tu veux pas jouer dans un pilote ?» Et il lui a répondu « Écoute, à deux conditions. » Tu ne me fais pas lire, j'ai pas le temps, et on tourne dans 10 jours. Et donc, elle a vraiment fait un branle-bas combat, elle a tourné, et ça a eu le succès extraordinaire.
Parfait.
Pour France 3, en plus, c'est énorme.
Ce qui est bien, en tout cas, c'est que, avec la manière dont vous avez obtenu les accords des ayants droit pour faire Gaston Lagaffe, et la manière dont José Dayan a réussi à faire passer Capitaine Marlowe, ça prouve qu'il faut se battre.
Il faut se battre.
Et aller pour aller au bout des choses,
oui.
Et que le travail finit toujours par payer.
C'est bien de dire ça, Nagui, pour les jeunes qui ont envie d'être danseuse, danseur, acteur, peintre, boucher, n'importe quoi, mais il faut se battre, il faut s'accrocher. Si on est sûr, au moins se donner toutes les chances, et puis après, évidemment, on peut changer en cours de route. Mais...
C'est bon, on dirait du Hamel Bent.
Parlons des affamés. Là, les affamés, vous êtes. Ça sera le 27 juin que sortira.
Premier film.
Léa Frédéval.
Frédéval, ouais, qui avait écrit le roman, qui avait eu beaucoup de succès. Elle a réalisé ce premier film, elle aussi avec beaucoup de courage et avec Louane en rôle principal. J'ai eu l'honneur d'être le papa de Louane. Alors c'est un petit rôle, mais j'avais très très envie de participer. Et il nous est arrivé des choses très très fortes sur ce tournage, ouais.
Et très, vous êtes déjà fort. Sur votre prochain film, votre 6e?
Bah oui.
C'est vrai?
Ah oui, vous savez ça aussi, donc.
Bah
oui. Ah oui, une adaptation d'un livre.
Oui, alors d'habitude, j'y serai dans 3 ans, mais là, il se trouve que j'ai démarré l'écriture de Faïm avant Gaston Lagaffe et avant l'épreuve 2. Et donc, je suis en train de terminer le scénario avec mes co-auteurs et c'est un fait divers. Alors là, vraiment, j'espère que vous m'inviterez parce que c'est pas du tout drôle comme Gaston. C'est une histoire vraie
sur un sans-papier
qui s'est passé en 2008. Un petit Bangladais de 7 ans qui était connu dans son pays parce qu'il était un grand joueur d'échecs à partir de 6 ans. Et là-bas, bon, vous savez, il y a 30 000 enfants qui disparaissent chaque année. Et donc, il a été obligé de s'enfuir avec son papa. Ils ont abandonné sa mère, son petit frère et sa grande sœur. Et ils se sont retrouvés un peu par hasard en France, à dormir sous les ponts pendant 3 ans, SDF, sans papier. Et un coach les a recueillis. Il y a eu un grand mouvement de solidarité de gens qui essayaient de le faire dormir chez eux en cachette. Et il est devenu champion de France sans papier d'échecs et c'est remonté jusqu'à l'Elysée cette histoire. D'ailleurs, hier, j'ai rencontré Patrick Cohen.
Il n'est pas champion de France sans papier d'échecs.
Exactement.
Il est champion de France d'échecs.
Sans papier.
En étant sans papier.
En étant sans papier.
Oui, parce que
champion de France sans papier. Non, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion. Je dis n'importe quoi, mais heureusement, Nagui, toujours là pour comprendre ce qu'il y a dans mon cerveau. Parce qu'il me connaît depuis longtemps, Nagui, donc il sait que ça va un peu trop vite.
D'ailleurs, Pep, si vous ne savez pas, vous mangez à midi, Nagui sait.
Et vous vous donnez un rôle dans ce film ou pas, justement, puisque ce n'est pas une grande comédie?
J'aurais adoré, mais le coach qui s'appelait Xavier Parmentier, que j'ai connu et qui vient malheureusement de mourir subitement, ressemble étrangement à Gérard Depardieu, et Depardieu a adoré le scénario et m'a dit oui tout de suite, donc malheureusement pour moi c'est lui qui va jouer
super
dans mon film, et pas moi.
Et c'est dans 10 jours.
Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, désolé pour Arnaud Ducret qui a été décrit ce matin comme un acteur au cul non cinégénique et incapable d'assumer son nez sur un tournage. Désolé pour Charlotte Gabris qui a été décrite ce matin comme une actrice moche par rapport à Alessandro Miller. Si, arrêtez,
jamais,
assumez.
Jamais.
Désolé pour Théo Fernandez qui a été décrit ce matin comme un usurpateur absolu. Donc désolé par conséquent pour Pef qui a bossé avec une belle bande de losers. On pourra en parler ensemble après l'émission. Pef, je vis la même expérience depuis 4 ans.
Théo Fernandez avec Pierre-François Martin Laval en comédien et en réalisateur, Arnaud Ducré, Jérôme Commandeur, Alison Wheeler. La liste est longue et les petits clins d'œil avec Stéphane De Groot et Isabelle Nanty dans ce très bon Gaston Lagaffe. Merci Pef et merci d'avoir protégé Gaston Lagaffe d'autres réalisateurs qui l'auraient peut-être pourri. C'est une réussite et ça sera mercredi prochain au cinéma. Rendez-vous demain avec Cécile Pivot et son papa Bernard Pivot qui nous encourageront à lire demain. Tout de suite, Carnet de campagne, c'est avec Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter.